Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 12 novembre.
Droits de l'homme en Corée du Nord, Séoul continue de coparrainer la résolution de l'ONU. Loi martiale, l'ex-chef du service de renseignement placé en détention. Et enfin, journée internationale des vétérans de l'ONU, une cérémonie s'est tenue hier à Busan. La Corée du Sud figure cette année encore parmi les coparrains d'une résolution des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Corée du Nord. C'est ce que montre le projet de texte dévoilé ce mercredi par la troisième commission de l'Assemblée générale de l'ONU. L'administration Lee Jae-myung affiche ainsi sa volonté de contribuer à l'amélioration de la situation des droits humains au nord du 38e parallèle, dans la continuité du gouvernement précédent. Cependant, certains observateurs anticipaient une certaine réserve de la part du président de centre-gauche à s'engager sur la question des droits fondamentaux des Nord-Coréens. Entre 2008 et 2018, Séoul avait coparrainé les résolutions onusiennes relatives aux droits de l'homme en Corée du Nord sous les dirigeants conservateurs, avant de changer de cap en 2019 après l'arrivée au pouvoir de Moon Jae-in. En 2023, le président de droite Yoon Suk-yeol avait décidé de reprendre cet engagement. A noter que cette année, les États-Unis n'ont pas coparrainé de résolutions sur les droits humains nord-coréens, illustrant un certain isolationnisme de l'administration Donald Trump. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est envolé mardi pour le Canada afin de participer à la réunion élargie des ministres du G7 qui s'ouvre aujourd'hui dans la région de Niagara. En marge de cet événement, Choi Hyun doit tenir plusieurs entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays participants. Il a d'abord rencontré hier la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper. À cette occasion, le chef de la diplomatie sud-coréenne a exprimé sa volonté d'accélérer les négociations sur l'amélioration de l'accord de libre-échange entre Séoul et Londres afin de renforcer la coopération économique bilatérale. Son interlocutrice a fait part de son souhait de voir les deux pays explorer de nouvelles opportunités de collaboration, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, du climat et de la défense. Elle a également espéré que le renforcement de leur partenariat dans le secteur des énergies renouvelables contribuerait à la croissance économique et à la création d'emplois. Par ailleurs, selon certaines sources, Choi Hyun devrait également rencontrer le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Si cette entrevue a lieu, les deux responsables devraient aborder la question de la publication de la fiche d'information conjointe résumant les résultats des récentes négociations tarifaires et sécuritaires bilatérales. Et avant de passer le micro à Oh Hae-young pour le chapitre économie, l'ancien chef du service national du renseignement NIS, Cho Tae-yong, a été placé en détention provisoire ce matin pour son implication présumée dans l'instauration de l'état d'exception en décembre dernier. Le tribunal du district central de Séoul, qu'il avait entendu hier, a accepté la demande de mandat déposée par l'équipe d'enquête spéciale chargée des investigations sur la loi martiale décrétée par Yoon Suk-yeol. Dans sa décision, le juge en charge a invoqué le risque de destruction de preuves. Parmi les chefs d'accusation retenus par l'équipe du procureur spécial Cho Eun-sok figurent notamment la violation de la loi sur le NIS, le manquement au devoir et le parjure. L'ex-patron du renseignement est accusé d'avoir omis d'informer l'Assemblée nationale du plan de l'ancien chef de l'État alors qu'il en aurait eu connaissance avant l'allocution présidentielle télévisée du 3 décembre 2024. Il est également soupçonné d'avoir refusé de transmettre au Minju, alors parti d'opposition, des images de vidéosurveillance montrant ses propres déplacements pendant la loi martiale. Les enquêteurs lui reprochent en outre d'avoir fait de faux témoignages à l'hémicycle et à la Cour constitutionnelle en affirmant que le président destitué n'avait pas évoqué la mesure d'urgence lors d'un dîner organisé en mars 2024 à la résidence présidentielle secondaire.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
L'Institut coréen du développement, le KDI, a indiqué hier dans son rapport sur les perspectives économiques que l'économie de la Corée du Sud devrait croître de 1,8% en 2026. Cette estimation représente une révision à la hausse de 0,2 points par rapport à la prévision précédente. Ce nouveau chiffre se situe au-dessus de l'évaluation de la Banque asiatique de développement. Il est estimé à 1,6%, en dessous de celle de l'OCDE fixée à 2,2% et au même niveau que celle du FMI. Le KDI a attribué cet ajustement à la reprise progressive de la demande intérieure, malgré la contraction des investissements dans la construction, la consommation des ménages s'est améliorée, ce qui atténuait la faiblesse de l'économie domestique. Selon lui, la croissance s'étend et l'activité économique montre des signes de redressement modéré. Il a précisé que le rebond du secteur des semi-conducteurs cette année a joué un rôle déterminant et que cette dynamique devrait se prolonger en 2026. Hier, c'était la journée des agriculteurs. À cette occasion, le Premier ministre a déclaré que le développement de l'agriculture en tant qu'industrie stratégique nationale constitue une priorité du gouvernement de Lee Jae-myung. Il a alors promis un soutien accru au secteur agricole. Lors d'une cérémonie à Wonju, Kim Min-seok a ainsi salué les progrès du secteur, soulignant que les exportations agroalimentaires et maritimes avaient dépassé les 10 milliards de dollars cette année. L'exécutif vise 15 milliards d'ici 2030 grâce au renforcement des filières clés. Le chef du gouvernement a annoncé des mesures pour améliorer la qualité de vie en milieu rural, consolider le filet de sécurité des revenus agricoles et élargir la responsabilité de l'État face aux catastrophes naturelles. Il a aussi évoqué la promotion de la K-Food au Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique à Gwangju et de récents accords d'exportation de kaki avec la Chine et de viande bovine et porcine de Jeju avec Singapour. Sans transition, les gardes-côtes de Jeju ont annoncé hier la découverte de deux nouveaux paquets suspects dissimulés dans des emballages de thé chinois. Vers 9h du matin, un habitant a trouvé un objet similaire sur la plage de Wurchongni et l'a signalé aux gardes-côtes. Plus tard, vers 14h20, un agent de surveillance maritime a découvert un autre paquet d'environ 1 kilo sur des rochers au large de Udo, au nord-est de l'île. Selon les autorités, ces deux colis présentent le même conditionnement que ceux découverts les 15 et 24 octobre sur les plages à Pohang, à Jeju, des paquets de thé oolong chinois contenant chacun environ 1 kg de drogue. Depuis la fin septembre, 10 découvertes de ce type ont été recensées sur les côtes de Jeju. Les substances retrouvées n'ont pas encore été analysées, mais elles sont soupçonnées d'être de la kétamine. L'armée et la police poursuivent les opérations de recherche le long du littoral pour une durée d'environ une semaine.
Le 11 novembre, c'était aussi la Journée internationale des vétérans des Nations Unies. Hier, les soldats tombés pendant la guerre de Corée ont été honorés au parc commémoratif de Busan. Environ 800 personnes étaient présentes à la cérémonie Turn Toward Busan, dont des vétérans onusiens et leurs descendants, des diplomates, des anciens combattants ou encore des responsables gouvernementaux. À 11h, une minute de silence a été observée, puis 21 coups de canon ont été tirés pour honorer le sacrifice des soldats. Initiée en 2007 par le vétéran canadien Vincent Courtenay, la commémoration est un jour officiel du ministère des anciens combattants et des patriotes depuis 2020. Au total, la Corée du Sud a reçu le soutien militaire de 16 pays et un soutien médical de 6 nations. 1 988 400 soldats de l'ONU furent impliqués, dont 40 803 morts, 103 460 blessés, 3 950 disparus et 5 819 prisonniers. Et pour terminer, demain, en Corée du Sud, se déroulera le Suneung, l'examen national d'aptitude pour les études universitaires. Ce mercredi, les 550 000 candidats ont été convoqués dans leurs centres d'examen respectifs afin de vérifier leur salle, de recevoir leur convocation à présenter lors du test ainsi que les consignes à suivre. Le jour J, les postulants devront se rendre dans leur salle au plus tard à 8h10, munis de leur convocation et d'une pièce d'identité en cours de validité avec photo. Afin de réduire les embouteillages lors de leur déplacement, l'ouverture du marché boursier régulier sera décalée à 10h, soit une heure plus tard que d'habitude. Les horaires du marché hors séance et du marché des produits dérivés seront également ajustés. Cette année, plus de 550 000 candidats passent donc cet équivalent sud-coréen du baccalauréat en vue d'entrer à l'université en mars 2026. Ce nombre représente une hausse de 9,1% par rapport à l'année dernière. Cela s'explique d'une part par le fait que 2007, année de naissance de la majorité des élèves actuellement en terminale, était l'année du cochon d'or, apportant la prospérité selon le calendrier traditionnel, ce qui avait entraîné une hausse des naissances. D'autre part, la restitution des quotas d'admission dans les écoles de médecine incitait davantage d'élèves à tenter leur chance cette année. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ohayang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.